Accent d'Europe, Frédéric Lebel. Talking about the good cannabis. It is the sweetest herb when it just can't resist. Bonjour à tous. Vent de légalisation pour le cannabis thérapeutique en Europe, mais tout le monde avance en ordre dispersé. La France tout d'abord qui va autoriser pour une période de 2 ans les essais cliniques et 21 pays sur 28 qui l'autorisent déjà, mais avec des législations assez différentes. En Italie par exemple, les magasins qui commercialisent les produits à base de CBD connaissent un beau succès. CBD pour cannabidiol, la molécule de chanvre contenue dans le cannabis dont les vertus apaisantes sont reconnues. À Naples, Cécile Debarge est allée rencontrer le directeur commercial d'une chaîne présente sur l'ensemble du territoire avec plus d'une centaine de magasins.
Parmi les boutiques du Corso Umberto dans le centre de Naples, le Cannabis Store Amsterdam détonne un peu. Entièrement ouvert sur la rue, la décoration est plutôt classique, murs noirs et feuilles de cannabis vertes en pagaille. Mais les clients qui pensent y trouver le paradis de la fumette risquent d'être déçus.
Ça, c'est l'Artoren, un de nos produits les plus forts. On l'a développé en spray froid pour les sportifs qui peuvent l'utiliser comme ça, ou bien en crème chauffante, en massage, pour les gens qui ont des douleurs articulaires. Il n'y a rien de chimique. Regardez, c'est écrit en français. C'est avec la molécule de CBD, le cannabidiol.
Derrière son comptoir, Giovanni Bianco propose l'une des dernières crèmes antidouleurs musculaires mises en vente dans le magasin, dont il est le directeur commercial, mais aussi l'un des fondateurs.
On ne vend pas vraiment de cannabis, on ne fait pas peur. On fait tout pour que si un touriste passe, il ait envie d'acheter un produit, que ce soit un biscuit, un gâteau, du chanvre ou bien un coca au CBD.
Sur les étals, on trouve des bonbons, des sucreries, des bouteilles de vin, des cosmétiques, des aliments de toutes sortes, tous estampillés d'une feuille de cannabis. Idem pour les boissons qui se trouvent dans le frigo ou le café proposé, lui, tout chaud. Au total, près de 250 produits sont commercialisés. Les clients, eux, sont discrets et plutôt âgés, explique Sergio Gallorini, avocat et responsable du service juridique du magasin.
Notre cible va de 19 à 70 ans, parce qu'il y a aussi des personnes adultes, voire des personnes âgées qui utilisent les tisanes, les infusions, même les gouttes, parce que ça leur évite de prendre des médicaments pour dormir. Ils dorment sereinement et ils se réveillent facilement.
Si tout cela est légal, c'est que la molécule commercialisée n'est pas considérée comme un produit stupéfiant au regard des législations européennes, explique l'avocat Gallorini.
Le chanvre peut être de deux types, celui qu'on appelle marijuana et celui qu'on appelle cannabis. Le cannabis, c'est du chanvre industriel ou plutôt un type de chanvre parmi les 64 variétés déclarées légales par l'Europe dont le taux de THC, la molécule hallucinogène, est faible. On autorise un taux de 0,2% en Europe et de 0,5% en Italie.
Parmi la clientèle, de nombreux touristes aussi qui profitent de cette législation italienne différente, en toute légalité, ils pourront bien ramener le produit chez eux.
En Europe, il y a un principe fondamental qui est la réciprocité. Donc ce qui est légal dans un pays l'est dans un autre. Donc si on achète dans un pays où c'est légal, on peut le transporter ailleurs si on a les documents qui attestent que c'est légal dans le pays d'achat.
Ouvert en janvier 2017, le magasin a connu un succès fulgurant en développant un réseau de franchises commerciales. Avec 24 900 euros d'investissement, il est donc possible d'ouvrir un magasin sur le modèle de celui de Naples, clé en main. En 10 mois, 100 magasins se sont ouverts en Italie, souvent situés dans des endroits touristiques et stratégiques, explique Giovanni Bianco.
Il y a des magasins qui font un chiffre d'affaires de 250 000 euros par an et d'autres 1,5 million par an. Ça dépend surtout de la ville et de l'endroit où se trouve le magasin. On insiste toujours sur l'endroit. Il faut que ce soit central, parce qu'on est une marque innovante.
Rapidement, le concept et la marque s'exportent ailleurs en Europe. 28 magasins se sont ouverts en Grèce et 13 devraient suivre. Les chiffres sont à peu près les mêmes en Espagne. En France, un magasin a ouvert à Montpellier. D'autres devraient voir le jour à La Réunion, en Guadeloupe et en Martinique. Sur son téléphone, Giovanni Bianco fait dérouler une liste de milliers d'emails non lus, tous originaires de la France.
Ah voilà, ça ce sont tous les candidats qui nous ont envoyé des demandes de franchise. On en reçoit entre 30 et 50 par jour. Attends, je vais te montrer. Voilà, Tout cela, on doit encore les contacter parce qu'on a trop de demandes.
Partout en France, au Portugal, au Royaume-Uni, en Grèce, en Espagne et en Italie, bien sûr, des milliers de petits entrepreneurs cherchent à investir dans le CBD. Depuis quelques mois, les demandes sont de plus en plus nombreuses aux États-Unis, car derrière le phénomène commercial, le marché du CBD crée des emplois, explique l'avocat Alberto Galliero.
Rien qu'en Italie, ces magasins et tout le secteur du chanvre représentent un marché de 10 000 emplois. L'Italie a reçu le paiement de 40 millions d'euros de taxes, ce qui veut dire que ça peut aussi faire croître l'économie d'un pays.
Pourtant, le marché est encore fragile car les interprétations des législations nationales autour du CBD sont sujets à débat. Avant l'été, la Cour de cassation italienne a déclaré que la vente de produits dérivés du cannabis est illégale, même sous 0,6% de taux de THC. Les fleurs de cannabis et la résine ont donc été interdites à la vente car elles peuvent se fumer. Les produits alimentaires dérivés, en revanche, sont toujours légaux. Une décision soutenue à l'époque par l'ancien ministre de l'Intérieur Matteo Salvini, pour qui ces magasins incitaient à la consommation de drogue et qui avait provoqué la fermeture de centaines de magasins. Il serait 200 aujourd'hui en Italie, contre 800 il y a quelques mois encore, selon les chiffres communiqués par l'équipe commerciale du magasin.
Et la Belgique a été un des premiers pays à autoriser dès 2001 les médicaments à base de cannabis. Mais attention, uniquement des prescriptions à l'hôpital dans le cadre d'essais cliniques. L'achat en pharmacie est pratiquement impossible. Quant aux produits à base de CBD, ils sont aussi très réglementés à Bruxelles. Les explications de Lex Milota.
Il n'est pas possible en Belgique de délivrer du cannabis sous forme de plante à des fins médicales. C'est l'arrêté royal du 11 juin 2015 qui réglemente les produits contenant du THC, le composant du cannabis qui a des effets psychotropes. Pas de plante donc, mais pour les pharmaciens, la délivrance de médicaments à base de cannabis est toutefois possible. Il y a actuellement un seul médicament autorisé, le Sativex, pour les patients atteints de sclérose en plaques. En ce qui concerne le cannabidiol, le CBD cette fois, un autre composant du cannabis mais sans effet psychotrope, aucun médicament industriel produit en laboratoire n'a pour l'instant été autorisé par l'Agence fédérale des médicaments. Toutefois, depuis août dernier en Belgique, les pharmaciens peuvent vendre des préparations qu'ils effectuent dans leur officine à base de CBD, pommade, huile ou pilule par exemple. Le ministère de la Santé interdit en revanche la vente de produits alimentaires ou d'huile à base de CBD dans des magasins. Pas de tisane ou de bonbons possible normalement, même si les boutiques estampillées CBD ont fleuri ces derniers mois dans le pays et surfe aux marges de l'illégalité.
Et en République tchèque, le cannabis thérapeutique est autorisé depuis 2013, même s'il reste peu prescrit en raison de son coût. Plus surprenante est la législation très ambiguë sur la possession de cannabis non thérapeutique par les particuliers. À Prague, Alexis Rosenzweig.
Les apparences et les odeurs sont parfois trompeuses pour des visiteurs de passage dans la capitale tchèque. Il n'est pas rare, en effet, de sentir des effluves d'herbe ou de haschich dans les rues de Prague, même à proximité des commissariats ou de policiers qui n'interviennent que très exceptionnellement pour verbaliser les fumeurs. Les autorités sont tolérantes en la matière, mais la détention de cannabis reste illégale, avec un texte au contour flou qui permet une certaine flexibilité. Selon les termes exacts, seule une quantité plus grande que petite peut être considérée comme un délit. Tout ça n'est pas quantifié, même si dans la pratique, on parle d'un maximum de 15 grammes pour consommation personnelle. Pour clarifier la situation, le parti pirate propose une réforme inspirée de la loi en vigueur dans l'État américain du Colorado. La formation du maire de Prague propose d'autoriser les particuliers à faire pousser jusqu'à 5 plants de marijuana à domicile pour en récolter un maximum de 1250 grammes. 30 grammes serait la quantité maximale qu'un adulte majeur pourrait avoir sur lui dehors. Cette dépénalisation permettrait, selon les pirates, de mettre fin au trafic intense qui alimente plusieurs mafias locales avec des plantations sauvages régulièrement saisies par la police dans le pays. Depuis 6 ans, seule une entreprise tchèque a le droit de planter et de récolter à des fins commerciales. Elle livre le cannabis prescrit par des médecins à des fins thérapeutiques. Hi Scotland, it's Nicola here. We're about to kick off our Westminster campaign.
To solemnly, sincerely and truly declare and affirm that you will be faithful.
Vous entendrez beaucoup parler d'elle ces prochaines semaines, alors que débute la campagne électorale pour les élections anticipées au Royaume-Uni. Aux côtés du Premier ministre conservateur Boris Johnson et du leader travailliste Jeremy Corbyn, deux femmes, la chef des libéraux démocrates, Jo Swinson, et Nicola Sturgeon, la leader du Scottish National Party, le parti indépendantiste écossais. Une femme déterminée, son portrait est signé Anissa El-Jabri.
Nicola Sturgeon, une militante chevronnée qui a embrassé à 16 ans la cause indépendantiste, un choix qui n'a rien d'évident. À l'époque, l'Écosse a en effet longtemps été un bastion du parti travailliste. Nathalie Duclos, professeure de civilisation britannique à l'Université de Toulouse et spécialiste de l'Écosse.
C'était très rare. Ce qu'elle raconte, c'est qu'au début, elle est plutôt d'une famille qui aurait voté plutôt travailliste, hein, une famille plutôt de la classe ouvrière, et qui était plutôt destinée à voter travailliste, et qu'effectivement, elle se distinguait un petit peu à l'époque par ses convictions que la cause ouvrière allait de pair avec la cause indépendantiste. Ce qui, aujourd'hui, est assez commun, finalement, dans la gauche écossaise, mais qui, à l'époque, n'était pas courant. Elle a fait un parcours normal, en fait. Elle a été à la branche jeune du parti, donc elle a gravi les marches normalement. Après, elle a su avoir la bonne personne comme mentor. Alex Salmond, le prédécesseur à la tête du parti, et quand il l'a choisi comme étant sa vice-chef du parti et vice-première ministre, son avenir était assuré.
Un choix précurseur donc et un parcours militant sans faute. L'étudiante en droit, à peine diplômée, elle a 22 ans et un caractère déjà bien trempé, se présente aux élections britanniques en 1992. La plus jeune candidate de la campagne perd et attend 7 ans les premières élections parlementaires écossaises pour décrocher un premier mandat. Le moteur de son engagement, c'est, dit-elle, la détestation de Margaret Thatcher, plus à gauche que son mentor Alex Salmond. Encore aujourd'hui, Nicola Sturgeon est aussi la première Premier ministre de l'Écosse à former un gouvernement totalement paritaire. La militante dans l'âme est également pro-européenne. Dans cette Écosse qui a majoritairement voté contre le Brexit, c'est pourtant là que le bât blesse, juge Nathalie Duclos. Le rêve d'Europe des régions de Nicola Sturgeon est loin de faire l'unanimité.
Sa direction du parti est de plus en plus contestée à l'intérieur même du parti. Il y a toute une branche un petit peu traditionnaliste au sein du dénationaliste qui juge que pourquoi se libérer du joug de Londres, si j'emploie une expression un petit peu exagérée, si c'est pour se soumettre à la gouvernance de Bruxelles. Et donc, tant qu'à devenir indépendant, autant être indépendant à 100% et de Londres et de Bruxelles. Donc, c'est une minorité au sein des nationalistes, mais cette minorité, elle existe. Et cette minorité, elle est mécontente du fait que l'indépendance soit associée à la question du Brexit.
Le problème n'est pas qu'interne au parti, on lui reproche en plus de gouverner avec un petit cercle rapproché. Selon les enquêtes d'opinion, un tiers des sympathisants du parti indépendantiste écossais ont aussi voté pour le Brexit. Nicola Sturgeon, dans cette campagne, vise donc beaucoup Boris Johnson, une figure repoussoire en Écosse.
Je ne veux pas voir Boris Johnson de retour à Downing Street. L'Écosse peut priver les conservateurs d'une majorité. Chaque candidat Tory en Écosse aura face à lui un candidat de notre parti. Je l'ai déjà dit et je le répète, je ne serai jamais membre d'un gouvernement conservateur. Ce que je veux, c'est une alternance et la participation à un gouvernement progressiste. Cette élection est une opportunité de mettre le futur de l'Écosse entre les mains écossaises, de voter pour un meilleur avenir pour notre pays et de remplacer ce système délabré à Westminster. In place of
this broken Westminster system. Les conservateurs ont déjà prévenu et ils sont catégoriques. Ils ne veulent pas d'un second référendum sur l'indépendance en Écosse quand Nicola Sturgeon en veut un pour 2020. Pour ça, il va lui falloir déjà reprendre les 21 sièges perdus en 2017.
Et c'est Bruxelles, le monde appelle.
Et d'Europe, il sera bien sûr beaucoup question durant la campagne britannique. L'Europe qui se trouve d'une certaine manière incarnée par le quartier européen de Bruxelles, siège des bâtiments de la Commission européenne, du Conseil et du Parlement. Mais ces immeubles de bureaux ont bien du mal à susciter un quelconque enthousiasme, sans parler d'une identité. Visite d'un quartier mal aimé par les Bruxellois eux-mêmes, avec Myriam Bell de la RTBF.
Schuman, voici le cœur du quartier européen. Ce pourrait être une place publique, mais c'est un rond-point. Ici autour, une soixantaine de bâtiments abritent les institutions européennes et tous leurs services.
J'ai l'impression que c'est pas vraiment Bruxelles. C'est autre chose, les bâtiments sont tellement grands, c'est pas très accueillant.
Dans cette portion de ville dédiée à l'Europe, trois bâtiments tout au plus sont identifiables des Quidam. Parce que les télévisions de partout les utilisent en toile de fond de leur direct pour parler d'Europe. Il y a le Berlaymont, en forme de croix, le bâtiment du Conseil et ses milliers de châssis en bois. Et puis un peu plus loin, et plus vivant, il y a le Parlement européen. Ceci, c'est le babillage du Parlement européen. Un brassage de 24 langues autour de bière sur cette terrasse. Et dans les commerces aussi. Catherine, commerçante depuis 25 ans.
C'est intéressant parce qu'on peut fréquenter cette Europe, qu'on fréquente effectivement les 27 pays, les 24 langues. On voit aussi ce qu'on en raconte à la télé. Et puis on voit ici des gens qui travaillent beaucoup, quoi. Des gens qui sont vraiment, je veux dire, investis dans leur travail, qui ont vraiment envie de défendre des situations dans des pays émergents. Cela, on n'en parle pas beaucoup.
Avoir une institution européenne face à sa vitrine, n'est-ce pas une poule aux œufs d'or ? Catherine Nuance.
Ils sont là 15 jours sur le mois. Il y a une semaine où ils sont à Strasbourg, donc on fait 60% du chiffre d'affaires en moins, avec des loyers qui ont fait x5 en 20 ans. Je veux dire, il faut pouvoir assumer une rentabilité derrière tout ça, quoi.
La commerçante ne voudrait pas vivre ici, notamment pour ces semaines où le quartier est vide.
À bientôt, merci beaucoup.
Alors, je vous emmène juste à côté du Parlement européen. Il y a la rue Vautier. Et j'ai grandi là. Et voilà, j'y habite avec ma femme et mes trois enfants. Je suis resté, oui.
Corentin Delicourt a choisi de vivre dans ce quartier. Il est même le voisin du Parlement. Sa petite maison blanche toise le mastodonte d'acier et de verre à 50 mètres à peine.
Voilà, donc ici, on est juste au pied de l'hémicycle du Parlement européen. Vous allez voir, c'est très étonnant. Il y a tout un îlot. Havre, une rue qui a une qualité architecturale aussi très intéressante. Et c'est ma rue. Et voilà, ça dénote totalement de tout ce qu'on a pu voir au niveau urbanistique du côté de la place du Luxembourg. Il y a une grosse partie du quartier qui a été expropriée lors de la construction du Parlement. Toute une vie de quartier qui a été chassée, toute une vie culturelle, au fait, qui a disparu. Il y a un comité de quartier qui a été créé pour défendre l'intérêt des habitants aussi, de rappeler qu'il y a des habitants. C'est parfois difficile d'arriver à s'exprimer, de savoir à quelle porte frapper.
L'air dépité, Corentin Delicourt évoque encore l'état préoccupant de ce bâtiment de 30 ans, déjà instable, qu'il est déjà question de consolider, voire de démolir et reconstruire. Il en faut plus pour décourager Marco Schmitt, du comité de quartier. Il est luxembourgeois, fils de fonctionnaires européens.
Je suis lié à ce quartier, notamment à cause de mon affection vis-à-vis des institutions européennes et du fait que je ne suis pas toujours très content de la manière dont elles s'expriment ici à Bruxelles. Quand vous êtes sur la place du Luxembourg, avant d'atteindre la partie la plus symbolique du Parlement européen, qui est le bâtiment de l'hémicycle, vous devez traverser une première couche de bâtiment, une deuxième couche de bâtiment, une rue en contrebas, une esplanade, pour arriver effectivement enfin au bâtiment de l'hémicycle, mais par derrière et par en dessous. Je pense que c'est assez représentatif du manque de lisibilité de ces institutions européennes en général. Et les citoyens européens ne comprennent pas les institutions européennes, mais les institutions européennes font en sorte de ne pas se faire comprendre, notamment en se construisant ici à Bruxelles.
À votre avis, quel est le plus grand raté architectural ?
Alors, le plus grand raté architectural, il est encore à construire, c'est la démolition-reconstruction de la rue de la Loi.
La rue de la Loi est la grande artère bruxelloise, jalonnée de bureaux de l'Union. Le prochain projet sur cet axe prévoit de démolir 120 000 mètres carrés de bureaux pour en reconstruire plus du double, en plus dense, plus haut, avec une tour d'une cinquantaine d'étages. Comment ne pas y imaginer des travailleurs de l'Europe qui regarderaient la ville, la vie, d'en haut.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast Accent d'Europe et sur les réseaux sociaux. Restez à l'écoute de RFI. Dans quelques instants, un nouveau point sur l'actualité sur la radio mondiale.